Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Nous allons prendre un moment de prière pour nous consacrer à cette soirée d'enseignement. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour ce samedi, pour ce week-end. Élève la voix pour dire merci à Dieu. Tu vas également lui rendre grâce de ce qu'il t'a choisi parmi les privilégiés de ce soir. Tu es véritablement un privilégié. Tu peux regarder autour de toi et te rendre compte que la salle est vide. Si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Dis-lui merci pour cette bénédiction qu'il t'a réservée. Maintenant, demande-lui pardon pour tout ce qui peut t'empêcher de recevoir cette bénédiction. Rappelle-toi qu'il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos transgressions qui font obstacle à nos prières. Dispose ton cœur à recevoir. Trouve tous les fertilisants spirituels qui peuvent rendre ton cœur comme une terre fertile. Père éternel, notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour cette soirée, pour l'enseignement que tu nous as réservé, pour l'instrument que tu as choisi. Seigneur notre Dieu, merci pour mes bien-aimés que tu as conviés à ce moment d'édification. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans chacune de leurs vies. Prophétiquement, j'en suis convaincu, ce que tu as réservé pour chacun de nous ce soir est une bénédiction tant espérée. Seigneur, je voudrais que tu me disposes à transmettre exactement ce que tu as mis dans ma bouche. Je te supplie, Père, afin que je me taise et que toi seul tu parles. Viens, Seigneur, parle, car tes servantes et tes serviteurs t'écoutent. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillons nous asseoir. La saison « Oser recommencer » se présente comme une pause disposée par notre Dieu pour nous conduire à réaliser nos échecs et notre incapacité à nous en sortir seuls. Ce que notre Père désire, c'est que, comme l'enfant prodigue, nous puissions retourner à la maison paternelle pour repartir à zéro, pour démarrer autrement. Car de toute façon, le Père nous y attend. En d'autres termes, dès ce carême 2019, Dieu veut que tu adhères à sa vision pour la restauration de ta propre vie, la restauration de ta famille, de ton église et de ta nation. Pour ce faire, le module 1 t'a permis de prendre conscience de tes limites. Le module 2 t'a donné, toi qui as pris conscience de tes limites, de poser de nouvelles fondations. Et le module 3 te permet d'avoir la conscience que, à partir de ces nouvelles fondations, le meilleur est à venir. Dans ce module 3, on nous a d'abord rappelé que il est possible d'être meilleur. C'était le premier chapitre de ce module. Hier, on nous a dit que pour être meilleur, il faut avoir le courage de recommencer. Et aujourd'hui, l'enseignement nous apprend que il ne suffit pas d'avoir le courage, il faut avoir la détermination, il faut avoir la persévérance, il faut avoir, comment dirais-je, la percussion pour aller le plus loin et atteindre ses objectifs. Cela dit, que signifie le mot audacieux? Pris comme adjectif, il signifie être déterminé malgré les dangers et les obstacles. Il signifie aussi être innovant, c'est-à-dire faire preuve d'originalité. En tant que nom, une personne audacieuse est une personne courageuse, cela ne suffit pas, mais une personne déterminée. Ce mot a également une connotation négative. Il s'agit d'une personne qui a un courage insolent. Nous allons le voir dans la suite de notre étude. Alors, cela dit, lorsque nous observons autour de nous, à partir de cette définition, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs types d'audacieux. Il y a les audacieux qu'on peut qualifier, selon les spécialistes, de narcissiques. Nous allons comprendre ça. C'est quelqu'un qui aurait dû mettre en valeur ses dons et ses talents au service de la communauté, selon Éphésiens 4, versets 11 et 12. Seulement, il est prêt à tout pourvu que ses ambitions personnelles soient mises en lumière, puisqu'il se considère comme le centre du monde, le plus fort, le plus beau. Ce qui le détermine, c'est le tape à l'œil, le m'as-tu vu. Ce qui le préoccupe, ce sont ses mérites, la démonstration de ses capacités. C'est pour cela qu'il est parfois orgueilleux. Ne vous trompez pas, son silence vise à attirer l'attention sur sa personne afin qu'on puisse reconnaître ses valeurs. Et son silence cache également son mépris des autres. Voilà un type d'audacieux. L'autre type d'audacieux, c'est les audacieux qu'on qualifie de communautaristes. Celui-ci aurait dû être le chantre de la communion fraternelle. Malheureusement, il fait montre d'une lâcheté déguisée. Il tire sa force de la dynamique du groupe dont il est membre. Seulement, c'est un adepte du slogan qu'on connaît bien, l'union fait la force. Il fait retentir les slogans, mais jamais il ne se démarque véritablement par une action personnelle. S'il est à Tamja, notre paroisse, il dira à qui veut l'entendre que sa paroisse est la capitale spirituelle. Cependant, sa contribution personnelle au rayonnement de cette capitale reste à être démontrée. il pourra aussi dire que sa paroisse est une famille chrétienne d'impact. Mais sa propre famille, ses voisins, ses collaborateurs ignorent son témoignage chrétien. En somme, ce deuxième type d'audacieux tire une grande fierté de son appartenance au groupe et non de sa participation effective à l'épanouissement du groupe. Un troisième type d'audacieux, c'est l'audacieux conformiste ou bien imitateur. Seulement, il n'est pas imitateur au sens où Paul l'entend dans Philippiens 3, verset 17 ou Éphésiens 5, verset 1. Lui, il ne prend pas d'initiative personnelle, mais dès qu'il constate le succès de l'autre, il se réveille par un sursaut d'orgueil et met tout en œuvre pour s'approprier un rêve qui n'est pas le sien. Dans le meilleur des cas, on pourrait appeler ça la saine émulation. Cependant, celui-ci a généralement le désir un peu vicieux de se mesurer aux autres. Il veut être comme tel, il veut faire comme tel, obtenir ce que tel autre possède. Seulement, au bout du compte, il risque de se compromettre. Un quatrième type d'audacieux, c'est l'audacieux concurrent ou bien compétiteur. Seulement, il ignore les principes de la compétition énoncés par Paul dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Il déploie tout son potentiel lorsque les conditions d'une concurrence sont réunies. Il se sent particulièrement à l'aise dans la confrontation. Il prend un malin plaisir à embarrasser les autres. C'est un réactionnaire qui a un tempérament belliqueux, c'est-à-dire il aime les problèmes. La patience, la tempérance ne sont pas de son ressort comportemental. Pour se frayer son chemin, il peut choquer, il peut blesser et même froisser. Cela importe peu. C'est son but qui compte. Il y a un cinquième type d'audacieux. C'est l'audacieux népotique. Lui, il n'a pas de mérite en tant que tel et peut dire à qui veut l'entendre, « Tu sais à qui tu as affaire ?» Il s'agit parfois d'un parvenu qui ne veut pas reconnaître son incapacité. Néanmoins, si vous regardez sa carte de visite, vous verrez qu'il y a beaucoup de titres ronflants. Vous regarderez aussi son carnet d'adresses et vous verrez qu'il y a les contacts des hautes personnalités. Lui, il est arrogant et extravagant. Il n'est pas du tout modeste. Un sixième type d'audacieux, c'est les audacieux addictisés. Ce sont des gens qui se sentent capables de réaliser des performances extraordinaires, mais sous l'emprise des substances addictives, comme le vin, la drogue, etc. Dès qu'il a consommé, il se sent fort et puissant et est capable d'accomplir des exploits. Mais seulement, ce sont des exploits qui l'aveuglent, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Dans Psaume 60. Toujours dans cette catégorie, il y a ceux qui sont soumis aux gourous. Ce sont des personnes perverses qui, dans l'ombre, procèdent au lavage du cerveau au point d'inscrire dans le subconscient de leur victime une sorte de manipulation. Lui, il se sentira capable de faire beaucoup de choses, mais c'est parce que il est manipulé par une puissance quelque part. Généralement, c'est des gens qui sont possédés. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Ils peuvent avoir l'audace. Mais c'est une audace qui fait de lui un audacieux factice, puisqu'il n'est qu'un jouet aux mains des agents sataniques. Il y a aussi un autre type d'audacieux qui est proche de celui-ci. C'est les audacieux mystiques. Eux, ils ont des pouvoirs comme la magie, la sorcellerie, les pouvoirs qu'ils puisent des rites, des croyances ancestrales et autres pratiques ésotériques. À partir de ces forces, ils peuvent accomplir des actes extraordinaires. Mais nous savons que la colère de Dieu ne tarde pas à les rattraper. Vous lirez cela dans Deutéronome 18. Nous observons aussi autour de nous des audacieux pragmatiques, on les appelle. Eux, ils aiment l'action. Ils ne s'embarrassent pas des théories. Ce sont des hommes d'action. Généralement, ils sont très appréciés parce qu'ils sont disponibles. Mais leur problème se situe au niveau de leur motivation profonde. Et ils risquent parfois de tomber dans l'activisme. Parce qu'il arrive parfois qu'ils agissent plus vite que leur intelligence. Ils ont donc besoin du discernement. Il y a les audacieux espiègles ou mesquins. Ce sont ces genres de personnes qui utilisent toutes sortes de méthodes pour atteindre leurs objectifs. Ils disent que tout chemin mène à Rome, ou bien que tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient efficaces. Ce sont des fins jongleurs, de beaux parleurs, des spécialistes de la langue mielleuse. Ils jouent sur la psychologie des gens pour atteindre leurs objectifs. Ce sont des phémens, ce sont des frappeurs. Ils sont nombreux dans nos institutions, dans nos lieux de service, sur les places de marché et dans les réseaux sociaux. Il y a également ce qu'on appelle les audacieux naïfs. Ce sont des gens qui foncent la tête baissée dans la réalisation de tel ou tel projet sans considérer au préalable les tenants et les aboutissants. Le plus souvent, c'est en plein élan qu'ils réalisent la bêtise qu'ils ont commise en se lançant dans une entreprise folle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parfois, c'est à la fin, lorsqu'ils constatent la catastrophe, qu'ils se rendent compte de leur turpitude. Mais plus grave encore, parfois, il n'y a même plus moyen de faire marche arrière. Ce sont, par exemple, des gens qui ont été entraînés à signer des pactes, je ne sais dans quelle réunion ou autre, ou dans tel groupe, dans telle secte ou autre. Et se rendre compte seulement lorsque on commence à leur faire des exigences. Voilà donc une petite catégorisation des types d'audacieux. Et parvenu à ce niveau, je crois que chacun de nous observe déjà pour se situer dans une catégorie ou dans une autre, sur le plan caractériel. Mais pour mieux comprendre la notion, nous allons entrer dans la Bible. Quel est le profil biblique de l'audacieux? En étudiant la Bible, on peut se rendre compte qu'il y a deux principaux profils d'audacieux. Il y a les audacieux à l'inclination négative. Et plus loin, nous verrons les audacieux à l'inclination positive. D'abord, pour bien comprendre ce qu'on entend par audacieux à l'inclination négative, nous pouvons lire Proverbe 6, versets 16 à 19, mais je vais le lire pour nous, pour qu'on gagne en temps. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Si vous retenez ce verset, vous avez le profil biblique des audacieux à inclination négative. Cependant, nous allons prendre quelques exemples. Parce que là-dedans aussi, il y a quelques particularités. Il y a l'audacieux qui est animé par la jalousie. C'est le cas de Michal, la femme de David. C'est poussée par la jalousie qu'elle a eu l'audace de mépriser son mari, qui, plus encore, était roi d'Israël. Il y a les frères de Joseph qui, par jalousie, à cause du rêve qui montrait que leur frère devait les dépasser, qu'ils l'ont vendu à prix de rien, après l'avoir jeté impitoyablement dans une citerne. Ils ont eu l'audace de le faire. Leur propre frère, le cadet, ils avaient le devoir de le protéger. Il y a Saül qui va également poursuivre David d'une haine téméraire. Alors que David est son bienfaiteur, si vous lisez 1 Samuel, il est son collaborateur, il est même son gendre. Mais par jalousie, il aura l'audace de décider de le tuer. Il dira même à son fils Jonathan qu'il a le désir de faire mourir David. Vous verrez cela dans 1 Samuel. Toujours dans la Bible, il y aura les audacieux qui sont animés par l'endurcissement de leur cœur. Si votre cœur est endurci et n'est pas sensible à la parole de Dieu, vous aurez l'audace de faire un certain nombre de choses parce que vous serez sous la puissance du diable. Nous le verrons avec Pharaon. Pharaon, à cause de son endurcissement, va d'abord concevoir un plan génocidaire en demandant aux sages femmes de liquider systématiquement tous les enfants hébreux qui vont naître. Et malgré les 10 plaies qu'il va faire subir à son peuple, il va continuer cependant à poursuivre le peuple d'Israël jusqu'à ce que la mer vienne arrêter son projet. Voilà l'endurcissement. Il y a l'audacieux qui est animé par la prétention, être ce qu'on n'est pas. Ça a été le cas avec Goliath. Goliath a démontré qu'il est capable d'asservir le peuple de Dieu. Il a montré pour cela sa grande carrure physique et son arsenal militaire. Mais mal lui en a pris. C'est une pierre, un caillou qui a mis un terme à sa prétention. Nous verrons également Hérode le Tétrarque, qui après avoir invité de grandes personnalités pour célébrer son anniversaire, se donne la latitude de demander à la fille de sa concubine « Qu'est-ce que je t'offrirai ?» Et la fille lui a demandé quelque chose. Il était coincé finalement. Et le texte nous dit qu'il fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Donc, il a l'audace à ce moment-là, à cause de sa prétention, d'ordonner qu'on décapite Jean-Baptiste. Il y a également l'audacieux qui est animé par la cupidité, l'amour de l'argent, l'accumulation des biens pousse beaucoup de personnes à manifester une certaine forme d'audace. Les gens peuvent aller jusqu'à se sacrifier. Ça, c'est le meilleur des cas. Les gens peuvent sacrifier leur famille pourvu qu'il y ait de l'argent. Nous voyons cela dans la Bible avec Judas Iscariot. Ayant vu qu'on versait un parfum de grande valeur sur Jésus pour l'adorer, au lieu de s'associer à l'adoration, son instinct cupide lui dit qu'on pouvait vendre ce parfum et distribuer l'argent aux pauvres. Mais au fond de son cœur, la Bible nous dit, c'est parce qu'il était cupide. Il voulait détourner cet argent pour pour ses propres poches. Mais au bout du compte, il a eu l'audace de vendre son maître à 30 pièces, alors que ce parfum coûtait 300 cycles. Vous imaginez à quel point la cupidité peut pousser les gens. C'est son maître, la personne qu'il prétendait servir depuis 3 ans. Toujours dans la Bible, il y a l'audacieux qui est animé par la convoitise. Si votre cœur est enclin à la convoitise, elle va vous pousser à faire des choses extraordinaires. Les fils d'Élie, le sacrificateur, à cause de la convoitise, n'ont pas hésité à gâcher les sacrifices qu'on apportait au temple. Et comme cela ne suffisait pas, les belles femmes qui venaient au temple pour les sacrifices, les gars s'empressaient de coucher avec elles. C'est quand même extraordinaire. Ils n'ont pas tenu en compte la confiance que Dieu leur a faite en les plaçant à cette position privilégiée. Ça, c'est d'un. De deux, ils n'ont pas regardé le caractère sacré du milieu dans lequel ils pratiquaient ces choses-là. Et de trois, ils n'ont pas considéré la carrure spirituelle de leur père Élie. Et parfois, c'est comme ça. Nous sommes à l'église. Peut-être dans cette paroisse, ça ne se passe pas directement comme ça. Mais il y a des gens qui, à cause de la convoitise, font des choses vraiment extraordinaires. Nous le verrons aussi avec David. Vous voyez avec quelle audace David a échafaudé le plan qui avait pour but d'éliminer Uri. C'est la convoitise qui lui permet d'avoir cette intelligence diabolique qui va finalement coûter la vie à Uri. C'est de l'audace, mais à cause de la convoitise. Toujours avec la convoitise, quelqu'un aura l'audace d'épouser 700 femmes et à côté de cela avoir 300 concubines, en tout 1000 pour lui seul. C'est de l'audace, mais animé par la convoitise. Nous crions, mais rappelons-nous que Jésus dit que quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Si nous nous regardons intérieurement, nous allons voir que nous ne sommes pas différents de Salomon. Combien de femmes regardons-nous seulement par jour? Ou bien combien d'hommes, les mamans ou les jeunes filles, regardent par jour? Donc nous ne sommes pas très différents de lui. C'est de l'audace sur le plan spirituel. Il y a également l'audacieux qui est animé par la rivalité. Si vous avez l'esprit de rivalité, cet esprit va vous pousser à poser des actes incroyables. Ça a été le cas avec Hérode, le roi Hérode, qui, à la naissance de Jésus, a cru voir un rival. Et lorsque les mages ont détourné son plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que tous les enfants de 0 à 2 ans soient systématiquement massacrés. Voilà. Il y a l'audacieux qui est animé par la religiosité, la fausse religion. On appelait ça le pharisaïsme. C'est le plus dangereux. C'est ce qui attaque ceux qui sont à l'église et qui s'appellent chrétiens. Nous verrons cela notamment avec les principaux sacrificateurs. Pour peu que Jésus ait dénoncé que ce que vous faites là, ce n'est pas la foi véritable, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont décidé de le mettre à mort. Ainsi de suite. Donc voilà, on pouvait citer également Balaam, ce prêtre qui était à la fois sorcier, etc. Il y a plusieurs autres versets. Mais ce que nous voulons dire, c'est que ces audacieux-là, qui constituent un véritable cancer spirituel dans l'Église, sont des audacieux que le Père ne veut pas. Le Père céleste ne veut pas de ceux-là. Alors, qui sont donc les audacieux dont le Père Céleste a besoin. Ce sont les audacieux à l'inclination positive. Qui sont-ils? Premièrement, ce sont les missionnaires féconds. Parce qu'il y a des missionnaires stériles. Ce sont des missionnaires féconds. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse va recevoir de l'Éternel la mission de délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les nombreux rebondissements, Moïse aura l'audace de faire face jusqu'à ce que le peuple sorte d'Égypte. Il y a Josué et Caleb qui auront l'audace, malgré le fait qu'après l'exploration de Canaan, ont découvert des géants. Pendant que les autres vont fuir, Josué et Caleb auront l'audace d'aller affronter les géants. Il y a Gédéon. Gédéon également, malgré le fait qu'il reconnaît qu'il est le plus petit et que sa famille n'a aucun record, va cependant accepter la mission. Nous n'allons pas oublier Paul, qui aura l'audace, malgré les persécutions et bien d'autres problèmes encore, de parcourir 3 continents dans ses voyages missionnaires. Voilà le premier type, les missionnaires féconds. Voilà les audacieux dont Dieu a besoin. Deuxièmement, il y a les soldats de Christ. Les soldats de Christ. Nous avons David. David, pendant que le peuple était effrayé par Goliath, a refusé que le peuple de Dieu soit soumis à la honte. Malgré le fait que Saül va lui donner une armure, il va jeter cette armure de côté et compter sur Dieu pour affronter Goliath. Il y a Pierre. Lorsque l'armée des soldats entoure Jésus pour l'arrêter après la trahison, Pierre va réagir énergiquement en faisant quoi? En coupant l'oreille à l'un de ses soldats. C'est ce que nous devons être dans le monde. Défendre notre Seigneur. Défendre la gloire de notre Dieu. Ne pas laisser que la gloire de Dieu soit foulée dans la poussière. On pouvait aussi citer Josué et Gédéon, mais on va avancer. Il y a également le serviteur. Le serviteur. Voilà les audacieux dont Dieu a besoin. Par exemple, Abraham, âgé de 75 ans, va accepter de quitter son pays, sa patrie, sa maison, son père, vers un pays que Dieu a indiqué. C'est l'humilité. L'humilité de service. On peut citer Moïse aussi. Lorsqu'on l'a choisi, il a eu l'humilité de dire: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» C'est l'humilité de service. Et il faut de l'audace pour avoir cette humilité pour le service. Et l'exemple le plus fort, c'est Jésus. La Bible nous dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il faut avoir cette audace. Il y a le disciple fidèle. La fidélité n'est plus à l'ordre du jour. Ne parlons pas des disciples. Combien sont-ils qui sont disciples? Mais combien sont-ils qui sont fidèles? Mais la Bible nous offre quelques exemples. Joseph chez Potiphar. Malgré tout ce que la femme de Potiphar va faire pour que Joseph dépose un acte de contre-témoignage, il va rester fidèle à sa foi. C'est de l'audace. Ce n'est pas facile. C'est de la détermination. Il y a Daniel chez Nebuchadnezzar. Daniel va dire ceci, ou bien la Bible nous dit ceci à son sujet. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est de l'audace. Combien sommes-nous capables de résister à des propositions? Il faut de l'audace pour ne pas trahir sa foi. Il y a Pierre, c'est un exemple qui m'intéresse beaucoup. Il a eu l'engagement et il a même prononcé, au point de dire que même s'il faut qu'il donne sa vie, il va le faire. C'est de l'audace. Il est vrai que plus tard, il va renier Jésus. Mais vous vous rendez compte, de tous les disciples, il est le seul qui a suivi Jésus, même si c'était en catimini. Et lorsqu'il est convaincu de son reniement, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il faut de l'audace. Il y a l'audace du pécheur repentant. Ça, c'est le plus fort. David, après avoir commis son forfait devant Nathan, va accepter son forfait. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il accepte. Il faut de l'audace pour avouer. Combien sommes-nous qui résistons lorsqu'on nous interpelle sur tel ou tel aspect de notre conduite? On résiste au point de considérer les autres, ceux qui nous appellent avec amour, comme des adversaires. Zachée, malgré sa haute carrure d'homme riche, va se rabaisser au point d'accepter de restituer. Et Jésus va lui dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il y a Nicodème, il y a la Samaritaine. Un autre exemple très intéressant, l'enfant prodigue. Lorsqu'il se rend compte de son erreur, il ose recommencer. C'est de l'audace. La honte pouvait le caler là-bas. Mais il est déterminé à refaire sa vie, à rebâtir sa vie. Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, etc. Un autre exemple très intéressant, c'est Saul de Tarse. On dit de Saul de Tarse qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il ravageait l'église. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Plus tard, on nous dit ceci. Il se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en faisant quoi? En démontrant que Jésus est le Christ. L'audace du pécheur repentant, c'est formidable. Autre forme d'audace que le Seigneur désire, c'est l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle. Et c'est très intéressant parce que chaque fois qu'il y a un projet qu'on présente à l'église et qu'il faut contribuer, c'est là qu'il y a tous les remous possibles. On va accuser le pasteur, on va accuser le conseil d'anciens. Ils viennent encore d'où avec ça? C'est manquer d'audace. Bref, c'est avoir une autre forme d'audace. Celle-là, inspirée par qui vous connaissez. Mais Abraham va démontrer cette audace de l'offrande sacrificielle. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il accepte. On dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ça, c'est de l'audace. L'audace sacrificielle, mais pour Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va dire après, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. On a même demandé d'apporter des pièces jaunes. Même jusque-là, l'offrande sacrificielle est un problème. La veuve de Sarepta va le faire. C'est de l'audace. Lorsqu'il ne reste qu'un peu de farine, un peu d'huile, et elle dit, après cela, nous mourrons. Et le prophète lui dit, fais ça, je vais manger. Elle le fait. C'est de l'audace. Il y a la pauvre veuve qui n'avait que deux pièces. Pendant que les gens ronflaient avec leurs biais et ne donnaient que leur superflu, cette pauvre n'avait que deux pièces. Elle est venue les donner. C'est de l'audace. Sur le plan sacrificiel, il y a Anne qui accepte de consacrer son unique fils au service. Vous verrez cela toujours dans ça. Il y a Joseph, l'époux de Marie, les exemples sont nombreux sur le plan sacrificiel, qui accepte de sacrifier son honneur et sa dignité. Lorsqu'on lui dit que ta femme est enceinte, mais tu vas la prendre comme telle. C'est de l'audace sacrificielle. Il a sacrifié son honneur, sa dignité, etc. C'est ce genre d'audace que Dieu veut. Un autre type d'audace, c'est l'audace de l'amour divin. C'est ce qui manque de plus en plus aujourd'hui. L'audace de l'amour divin. L'amour est de plus en plus calculé, de plus en plus intéressé. Et c'est pour cela que lorsqu'on organise les visites de condoléances, il n'y a que le pasteur et ses deux anciens. Même si c'est dans votre zone, non, vous n'y allez pas, parce que vous êtes du G carré. Parfois, on oblige les chorales en les inscrivant dans les programmes. Chacun de nous rendra compte. Dans cet amour divin, il y a le défi de l'intégrité conjugale. Je ne vais pas faire le commentaire là-dessus. Par la pensée même, beaucoup de couples sont dans l'adultère. Cela énerve Dieu. Et au point où il dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a le défi de l'amitié sincère. Nous avons l'exemple de Jonathan qui va contrarier son père. Pendant que son père est engagé pour tuer David, Jonathan va sceller une amitié sincère avec David au point de l'aider lorsque Saül est dans sa poursuite. Ça, ça manque aujourd'hui. Nous pouvons avoir des amis, mais selon le cas, on va regarder et pencher d'un côté comme de l'autre. Ça manque de sincérité. Il y a le défi de la cohésion fraternelle. Le défi de la cohésion fraternelle. Nous voyons cela lorsque Joseph, en Égypte, accueillant ses frères, ne tient pas compte de l'offense qu'il lui avait faite. Il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte, il les accueille pourvu que la cohésion fraternelle demeure. Et il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il interprète l'offense que ses frères lui avaient faite, il dit quoi? Il dit que c'était la volonté de Dieu. C'est formidable. C'est de l'audace. C'est de l'audace. Il y a le défi de la diaconie. Nous voulons cela avec le bon samaritain. Je rends grâce à Dieu parce que ici, ce défi est souvent relevé avec beaucoup de panache. On l'a vu dernièrement. Gloire à Dieu. Il y a le défi de l'unité familiale, de l'unité nationale et de l'unité spirituelle. Nous verrons cela dans Jean 17, verset 21. Ça, c'est un véritable défi. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Le temps me tient à la gorge. Quand nous regardons l'état de notre pays, nous voyons que c'est un grand défi, le défi de l'unité. Lorsque nous regardons notre Église, que certaines personnes ont envie de diviser, c'est le défi de l'unité. Enfin, il y a l'audace du bâtisseur de la maison de l'Éternel. Salomon l'a démontré. Quand vous lisez 1 roi 5 et 6, vous voyez comment Salomon a pris le soin de bâtir la maison de l'Éternel. C'est de l'audace. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Mais je suis dans le regret de le démontrer. Nous avions pris l'engagement de faire pour la collecte des travaux chaque dimanche de Sainte-Seine. Combien ? Combien ? Chaque dimanche de Sainte-Seine, combien ? Avons-nous jamais atteint cela ? Avons-nous jamais atteint cela ? Nous manquons d'audace. Ou bien, il y a quelqu'un d'autre qui inspire notre audace au point où nous nous résolvons à ne pas atteindre cet objectif. C'est un problème. Il y a le roi Cyrus, le roi de Perse. Après la déportation, lorsqu'on avait détruit le premier temple, le roi Cyrus va émettre un édit pour que le temple soit reconstruit. C'est de l'audace. Parce qu'en cela, il y avait des ennemis. Les ennemis, ceux qui ne voulaient pas que le temple soit reconstruit. Mais nous voyons en lisant Esdras qu'il y a eu de la détermination. Les Josué, les Zorobabel et autres ont eu la détermination pour restaurer le temple de Dieu. Ils ont eu de l'audace pour affronter les ennemis de la restauration du temple. Vous lirez Esdras et vous comprendrez cette forme d'audace. Mais quand on parle du temple, on ne parle pas seulement de la maison, de l'édifice. On parle de toi. Parce que l'église, c'est toi. Et pour reconnaître que l'église, c'est toi, il faut de l'audace. Les gens croient que l'église, c'est les autres. Mais l'église, c'est toi. Et c'est pour cela que Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est toi, et tu dois avoir l'audace, le challenge de défendre l'intégrité de la maison de Dieu contre ses ennemis. En conclusion, l'audace comporte des inclinations contraires. L'audacieux peut avoir la propension à faire le bien ou à faire le mal. Deuxièmement, l'audace a des fondements opposés. Le caractère de Christ et le zèle de la maison de l'Éternel déterminent un type d'audacieux, alors que la ressemblance au père du mensonge et la conformité au monde conditionnent l'autre type. Troisièmement, l'audace se nourrit des motivations antinomiques. Un audacieux sera collaborateur de Dieu et témoin de Jésus-Christ. L'autre audacieux s'évertuera à agrandir la famille des fils et des filles de la perdition. Quatrièmement, l'audace vise des buts inconciliables. Soit l'audacieux aime Dieu et désire agir pour Dieu, soit il aime le monde et recherche ses propres intérêts. Ainsi, bien-aimé, au moment où l'Église a l'impertinence d'offrir au monde un spectacle désolant, au moment où la nation, les familles, la société sombre dans un chaos généralisé du fait des personnes audacieuses mais mal inspirées, les questions suivantes, en trouvant leurs réponses, suscitent d'autres interrogations. Première question. Pourquoi certains projets paroissiaux font-ils tant de remous au point où on passe du temps à maugréer et à présager le fiasco? C'est de l'audace. Mais lequel? Deuxième question. Pourquoi lors des assises paroissiales ou à l'issue des conclaves d'église, on boycotte cette sagesse explicitée par Pierre et Jean? Je cite, « Jugez s'il est juste devant Dieu d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. » c'est aussi de l'audace. Mais de quelle inclination? Troisième question. Est-il temps de défaillir? Non. Il faut oser recommencer. Pour ce faire, les audacieux de Dieu, ceux que nous venons de voir, sont parés pour restaurer le monde, pour restaurer la nation, pour restaurer la famille et pour restaurer l'Église. Les audacieux de Dieu, ce sont les fidèles de Jésus-Christ. Ils écoutent Dieu et lui obéissent. Ni l'incrédulité, ni la honte, encore moins la procrastination, ne sont leur partage. Ils bravent avec persévérance la peur, le doute, le découragement, la paresse, le laxisme, la lâcheté. Ils ont appris à dominer la haine, l'orgueil, l'égoïsme. En d'autres termes, l'audace ne devrait surtout pas déboucher sur l'entêtement, sur l'endurcissement, sur l'enlisement, la division et l'impertinence. Dans une église où on a l'audace de se regarder en chien de faïence, dans une église où les fidèles ont l'audace, de déclarer ouvertement qu'ils sont les uns pour Apollos et les autres de Paul, quelle audace faut-il pour restaurer l'Église évangélique du Cameroun? Quel audacieux faut-il pour faire grandir davantage nos paroisses et nos communautés? Il faut les audacieux honorables qui se déploient pour faire avancer l'œuvre de Dieu et non pour tourmenter l'Église de Jésus-Christ. Cette Église a besoin des véritables fidèles de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit. Si tu en es un, lève-toi car cette affaire te concerne. Prends courage et agis. Le courage ne suffit pas, il faut agir. Car le meilleur est à venir. Amen. Levons-nous pour prier. Bien-aimé, sois audacieux, mais de quelle audace es-tu animé? Dans un premier temps, tu vas rendre grâce à Dieu pour le message que tu as reçu. Parle. Je suis convaincu que tu as reçu quelque chose. Je suis convaincu que tu ne seras plus le même. Dis merci à Dieu parce que désormais tu seras animé d'un autre type d'audace. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où l'audace de l'autre t'a inspiré et t'a donné de freiner les projets de Dieu. Tu l'as fait quelquefois. Peut-être tu le fais tout le temps, par tes paroles, par tes actes, par tes silences. Demande sincèrement pardon à Dieu, car tu as freiné l'avancement de son règne. Parce que tu n'as pas été animé d'une bonne audace. Ensuite, prends l'engagement, avec l'aide de Dieu, d'être de la famille des audacieux de Dieu. Sois sincère, parce que dès demain, ou alors dès tout à l'heure, ton engagement sera mesuré.
Oh mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix.
Répète ces paroles après moi.
tu es merveilleux.
Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être un missionnaire fécond. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être soldat de Jésus-Christ. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être l'humble serviteur de mon roi. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être disciple fidèle. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à vaincre le péché dans ma vie. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être une offrande sacrificielle. Je suis l'audacieux de Dieu. Je suis le dépositaire de l'amour divin. Je suis l'audacieux de Dieu. Je m'engage à être le bâtisseur du temple de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
De ta voix, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré, rassuré par le son de ta voix.
Tu es merveilleux, ensemble.
Tu es merveilleux, tu es merveilleux. S'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, ô mon Dieu, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix.
Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras. Dans le creux de tes bras, ô mon Seigneur.